moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Salut Pissom, soyez les bienvenus, chers crocs, aussi hors l'épelle. Vous êtes bien en train de surfer sur les ondes de Radio Judaïka sous la synagogue. Et tout ce mois de décembre, nous allons ouvrir ensemble la boîte à souvenirs et d'un petit coup de manivelle, rembobiner la vie de mes invités surprises. Alors, ouvrez grand vos oreilles, vos tympans et préparons-nous à savourer leur Madeleine de Proust. Bienvenue dans ma 137e émission. Et oui, comme le temps passe, fais-moi une place derrière cette forêt du micré Ishpinsl, André Muller et notre cher Thomas et aux manettes dans sa petite boîte là derrière. Le rouge est allumé dans le studio. Unietz geht's los. Bonjour invité surprise, j'ai invité les délices de Joséphine du Val de Villers. Comment vous allez tous les deux,
bonjour,
Albert
bonjour
et Monique?
André. Bah, écoutez, bonjour, ça André. Va bien.
Vous êtes venu de loin, je crois, de
oui,
Villertol.
La vallée de Villers, une des plus belles vallées.
Non, c'est pas vrai.
Ah oui, à Cussy, on s'y sent tellement bien.
C'est vrai, c'est bien.
C'est
beau là-bas. Il y a un peu de neige, un peu de givre
pas
ce matin.
Pas encore. Il y en a eu. C'est vrai qu'on a eu très très froid ce week-end pour notre premier marché Noël. Mais il fait bon vivre.
Alors vous allez bien tous les deux, vous êtes des gens heureux.
On est heureux, oui. On essaye. Hein.
Albert, il dit rien.
Très
hein.
Heureux.
Toi aussi, Albert, tu vas bien?
Je vais très très bien.
Bah, je te poserai des petites questions parce que tu es un peu l'attaché de presse de ton épouse, hein, on peut le dire. Hein.
C'est ce qu'on dit.
Tu t'occupes de la com. Hein, ouais. Alors aujourd'hui, nous allons savourer, titiller les pavilles. On va parler de confiture, de miel, de pain d'épices, de prédelle, de compote, de sirop à la rose. Und so Witterst. Mais Monique, toutes ces bonnes choses, c'est toi, c'est ton idée, les délices de Joséphine?
Alors, les délices de Joséphine, de base, ce n'est pas non plus mon idée parce que j'ai été surfer là-dedans. On m'a bercé dans la cuisine.
Dans la confiture?
Dans la confiture.
Non.
On en faisait des quantités énormes petites avec ma maman. Voilà, et du coup, ben, la passion.
Et ta maman s'appelait Joséphine.
Ma maman de cœur.
De cœur, mais on parlera tout à l'heure un peu plus loin pourquoi elle est de cœur. Mais une maman, on a toujours un cœur pour sa maman, c'est sûr.
Mais bien sûr.
C'est vrai. Et cette maman t'a appris beaucoup de choses à cuisiner.
Elle m'a énormément. Dès mon plus jeune âge, elle m'a emmenée partout pour cuisiner parce qu'elle était cuisinière. Elle était
mais
très
cuisinière
connue dans
les restaurants ou comment?
Non. Jeune fille, elle était cuisinière à Paris pour un petit moment. Elle était cuisinière au Mont-Saint-Michel.
Ah
ensuite,
oui
elle est rentrée à la maison et ses parents lui disent maintenant, stop.
Mais qu'est-ce qu'elle faisait au Mont-Saint-Michel?
Elle était cuisinière.
Chez la Poularde,
ça se
là,
faisait
chez...
beaucoup.
Ah ouais
ça se faisait beaucoup à l'époque. On emmenait sa cuisinière avec et puis voilà.
Ouais, ouais. Hein.
Et elle a suivi un médecin. Elle était avec un médecin très longtemps. Et après, elle était avec
un... Ou elle a fait la cuisine chez un médecin.
Tout à fait.
D'accord.
Oui.
Et donc, elle t'a tout transmis et transmis beaucoup de choses.
Elle m'a tout transmis, toutes les bonnes choses, la qualité, tout. C'était vraiment quelque chose, tout était à mi-donner, comme on dit. Hein. C'était vraiment
d'accord.
du haut de gamme.
Et toi, tu donnais un coup de main, tu étais à côté d'elle.
Alors moi, j'étais en fait avec elle, non pas pour cuisiner, mais pour faire la vaisselle, pour mettre la table, parce qu'on faisait des mariages qui duraient 2 jours, des communions qui prenaient 3 jours, dans des vieux fourneaux en bois. C'était dur, hein, je peux vous dire. Hein. Mais c'était beau, voilà. C'est... Et en même temps, je surveillais comment elle cuisinait.
Et tout ça dans le Val de Villers. Dans le Val de Villers. Le Villertol.
Oui.
Et là-bas, dans le Villertol, on ne parle pas le Alsacien.
Ah, que si.
On ne parle pas le Welsh, non?
On parle l'Alsacien.
On parle l'Alsacien aussi. Mais c'est.
Le Welsh un peu. Et le Welsh.
C'est aussi le pays du Welsh, non? C'est
oui.
un peu, ouais.
Oui, tout à fait. Oui.
Et Albert, qu'est-ce qu'il dit,
Albert,
lui Albert, il, est pas, il fait des gestes, là.
Non, Albert, il dit le Val de Villers, c'est moitié Alsacien, moitié Welsh.
Oui, voilà.
On est à la frontière linguistique sur la partie Welsh.
C'est une petite enclave, on ne parlait
on
que.
On va dire, c'est une enclave, ouais.
On parlait le Frenchie, quoi.
Et nous avons aujourd'hui encore dans la vallée de Villers les tables de patois. Les patoisans qui se réunissent.
Ouais.
Les gens
d'Anne
Sainte-Marie, du côté d'Orbay, et puis l'arrière-vallée de Villers.
Toi, tu le comprends un peu, le Welsh?
Alors, je comprends quelques mots.
Que tu sais dire en welsh par exemple?
Hockey papa des motjor.
Ça a acheté, ça a acheté.
Ça veut dire encore papa des patates.
Ah, c'est rigolo ça, c'est
il
marrant.
Il a appris ça il n'y a pas longtemps.
Tu vois, on a bien fait de le faire venir, hein, de le mettre derrière un micro. Hein. Alors, je sais aussi, Monique, que tu as un talent incroyable, que tu as eu d'innombrables trophées. Je vais en citer quelques-uns. Hein. Tu as eu en 2010 le meilleur pain d'épices d'Alsace.
Oui.
Tu as eu en 2012 la meilleure cuisinière d'Alsace, hein, on peut le dire.
Oui, hein. Chef Abord, c'était magnifique.
Et après, là, en 2015, le challenge Marmiton en franco-gourmand.
J'ai beaucoup transpiré, oui.
C'est pas rien, quoi. Et tu as la deuxième place de la meilleure confiture en France en 2017. Mais où t'arrêtes-tu?
Mais j'ai pas de limite, hein. Il faut que ça soit faut que ça soit la perfection tout le temps, hein.
La passion a pris
dessus qu'on peut même pas expliquer, hein. Faire plaisir et se faire plaisir en même temps. Vous voyez ce que je veux dire?
D'accord.
C'est très important, ça.
Et Monique, tu peux me tutoyer, hein, sinon je suis un peu gênée. On se tutoie. Hein.
Allez-y.
Et alors, tu vas encore en faire d'autres, des trophées, des prix?
Ça, je ne sais pas, parce que c'est comme beaucoup de stress. C'est surtout mon mari qui, lui, a tendance à me...
C'est lui qui te met la pression.
Ouais, ouais,
hein.
Ouais. Je le vois, le coquin,
là-bas, derrière le micro. Regardez, regarde comment il sourit. Hein.
Et c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de stress. Hein.
Et il te donne un coup de main? Est-ce qu'il fait de la confiture?
Il rentre pas dans ma cuisine. Non. Il est juste là pour porter lourd, pour les charges et tout. Et donc, communiquer.
Et tu es toute seule, en fait, dans ta cuisine?
Oui, je suis toute seule, oui. Je suis un peu, comment dire, peur que ça ne soit pas la perfection, peur qu'on oublie quelque chose. Voilà, je suis une grande angoissée, en fait.
Ah ouais, d'accord. Mm. Alors, on va se déstresser un tout petit peu. Ouais. On va écouter un peu de musique, si tu veux.
Allez.
Parce qu'on va te mettre un peu de piano, parce que tu aimes le piano.
J'adore.
C'est beau le piano. Hein.
C'est magnifique. Hein,
c'est,
oh là là.
C'est ce que tu écoutes un peu dans ta cuisine.
Ah oui, j'en mets régulièrement.
Tu as bien raison.
Ouais.
C'est pour ça que tu fais des bons produits aussi, parce que la musique...
Je suis bercée en même temps.
T'es bercée par la musique. Ouais.
Ouais.
Alors, on va revenir un petit peu en arrière et ouvrir un peu ta boîte de souvenirs, Monique. Hein, d'accord.
Ouais.
Et d'où te vient ce nom de ton entreprise, Délices de Joséphine? Comment tu as trouvé ce nom?
Alors, il faut savoir qu'au début, on a créé l'entreprise en 2010. Et au départ, c'était Mamie Pote, qui n'a pas vécu très très longtemps, quelques mois.
Mamie Pote, c'était Joséphine? Mamie Pote,
c'était non. C'était le nom que j'avais donné à mes compotes que je faisais tout au début.
Ah.
Voilà. Et malheureusement, ça n'a pas tenu longtemps, bien que j'avais déposé le nom
à
l'INPI. Mais un gros groupe est venu sans gêne me dire, ben voilà, moi
te
je veux
spoiler,
ce nom, voilà, il est beau, je le veux, et puis
non, c'est
voilà.
Pas vrai. Et t'as pas pu te battre?
On n'a même pas cherché vraiment, parce que ça nous aurait coûté une fortune, et un stress, enfin tout, la boîte,
Mais la marque était déposée quand même.
Oui, oui.
Albert, il veut dire un truc.
Oui, je veux dire quelque chose de plus pratique. Il faut savoir, tu peux déposer une marque, même si elle est disponible, même s'il y a tous les éléments, toi, tu peux dire, moi je suis pas d'accord. Après, c'est à toi de le justifier. Donc, tu m'emmènes au tribunal. Ça peut durer des années, des années, des années.
Ouais.
Et nous, c'était un très gros groupe. Mais quand je dis un très gros, ça s'appelle David contre Goliath.
D'accord.
Il y a un expert de la propriété industrielle à Strasbourg que je connaissais. Il m'a dit en gros...
Cherche pas, laisse tomber.
Ouais.
Et alors, c'est devenu Joséphine.
Alors, c'est devenu Joséphine.
Qui est Joséphine?
Joséphine, c'était ma maman adoptive. Enfin, ma maman, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu m'adopter, mais elle m'a prise en charge... quand j'avais 4 ans et demi, c'est simple, elle est venue me chercher à la DAS à l'âge de...
Parce que tu étais dans un orphelinat, c'est ce que tes parents t'ont abandonné, que tu étais toute petite.
Voilà.
Et ça t'a pas déchiré le cœur, ça?
Ah, c'était un moment extrêmement dur, hein. Surtout qu'auparavant de tout ça, il faut savoir qu'il y a eu énormément de drames aussi, parce que j'ai été placée à plusieurs reprises avec mon frère.
Chez d'autres parents?
Chez d'autres parents, tout à fait.
Et ça
se faisait
fonctionné.
Beaucoup à l'époque et ça n'a pas marché, parce qu'il y a eu, on peut le dire, il y a eu de la maltraitance et on ne pouvait pas me laisser.
De la maltraitance?
Ah que oui. Et j'ai même un souvenir que j'ai gardé, mon frère pareil, on a le même souvenir. Et donc, il était grand temps de nous sortir de là. Et la chance, si je peux dire ça comme ça, je suis tombée très malade. Et du coup, ben, on m'a hospitalisée. Et là, il a fallu trouver une famille en urgence, mais vraiment qui tienne la route, quoi. Et donc, c'était Joséphine qui est venue se présenter. Je la verrai toujours encore le 6 décembre 1962. Il y avait énormément de neige. Je ne pouvais même pas imaginer la hauteur de neige qu'il y avait. Et elle est venue me chercher. Je la vois encore avec son chignon gris. Elle devait nous emmener tous les deux, mon frère et moi. Mais elle a pris l'initiative de prendre qu'un enfant parce qu'elle ne pouvait pas en prendre deux.
D'accord.
Voilà, ça lui aurait coûté trop cher à l'époque.
Bien sûr, toute seule. Bien sûr.
Elle avait perdu son mari des suites de blessures de guerre. C'est D'accord. pour ça qu'elle avait décidé de prendre un enfant.
D'accord. Donc, elle t'a voilà. sauvée, en fait.
Elle t'a sauvée. Voilà.
Elle t'a sauvée, ouais. Elle t'a donné une belle éducation, voilà. Elle t'a appris beaucoup ouais. de choses. Énormément. Et il y avait de l'amour, il y avait tout ce qu'il fallait.
C'est une femme qui a vécu beaucoup, beaucoup de souffrances, elle aussi. Hein. Elle avait comme trois enfants. Perdre son mari comme ça, c'était dur pour elle. Hein. Donc, ce qu'elle voulait, c'est avoir un enfant à qui elle ne voulait pas vivre seule. Elle ne voulait pas, elle disait toujours, je ne veux pas mourir seule. Parce qu'elle savait très bien que ses enfants allaient partir un jour de la maison.
D'accord,
voilà.
Parce qu'elle avait d'autres, elle avait des enfants
plus grand,
déjà.
Plus grand,
ah,
trois.
D'accord,
ouais.
Donc elle voulait une petite fille.
Deux sœurs et puis un frère. Quoi.
Et tu penses que cette tristesse dans ta vie, ça forgé ton caractère, ça t'a donné l'envie d'aller loin.
Quelque part, c'est dur à dire peut-être, mais quand on vit ça, on a beaucoup plus de force et d'énergie pour se dire, ben, là, tu as eu de la chance, tu as été sauvée, maintenant fais quelque chose de ta vie aussi. Voilà.
Mais on peut se dire ça quand on est tout jeune, quand on a 5, 6 ou 7 ans. Et tu avais déjà ça.
Je peux vous dire que les premières années où j'ai vécu avec Joséphine, j'avais complètement oublié que j'étais d'Adas, tellement elle a su me protéger de tout ça. Sauf qu'un jour, à l'école, on me l'a bien fait sentir. On m'a dit, il est où ton père? Ben, j'ai pas de papa. Ah ben, t'as pas remarqué que ta mère te ressemble pas?
Ah oui, on t'a
voilà,
dit ça.
Voilà.
Mais c'est cruel, les enfants.
C'est terrible, oui.
C'est
oui.
terrible ce que les enfants ouais. peuvent dire.
Et puis finalement, et quand je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré. J'ai dit, maman, je ne comprends pas. Et là, elle m'a tout expliqué.
D'accord.
Et là, ça a été... Je peux vous dire que ça a été très, très dur parce qu'on se dit tous les jours, je vais peut-être la croiser, ma vraie mère. Pourquoi moi? Pourquoi pas? Voilà.
Tu as cherché souvent tes vrais parents? Tu y as pensé souvent?
J'y ai souvent pensé parce que je voulais comprendre et savoir mon histoire. Est-ce que c'est vrai? Les images qui me restaient dans ma tête. Parce qu'on se dit qu'un petit, on ne retient rien. Ben si, à l'âge de 3 ans et demi, quand on m'a enlevé de mes parents... Il n'y avait pas d'autre solution, il fallait me placer. Ben, je peux vous dire qu'il me reste énormément d'images, hein, énormément. Ouais.
Tu as encore un peu la voix chevrotante quand on en parle, quand tu en
oui,
parles.
C'est
quelque chose qui est encore au fond de
oui.
toi.
Hein. Oui.
Et oui. Mais ouais. ça t'a permis aussi de grandir, d'avoir plus de force peut-être que d'autres
Après,
enfants.
Après, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. C'est vraiment, il faut se dire, par rapport à mes frères et sœurs, on était comme 9 enfants. Hein. J'ai eu
9
la chance,
enfants dans
9
ta
enfants.
Famille. Waouh, c'est énorme.
Ouais, 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 ouais.
C'est vrai
ouais,
qu'à
ouais.
l'époque, il ouais. y avait beaucoup de frères et sœurs.
Voilà, hein. c'est ouais. ça. Ouais. Ouais, ouais. Et puis voilà, après, j'ai eu énormément de chance. Hein. J'ai Joséphine qui est venue me sauver de cette misère. Hein, et voilà. Ouais.
Et donc après, tu as rencontré les enfants de l'école, tu as fait de bonnes études.
J'étais très mauvaise à l'école, je peux vous le dire honnêtement. Et je n'ai pas honte de le dire parce que je pensais qu'à ça. Après, c'était pourquoi et puis...
Tu pensais qu'à Théo, pourquoi t'as abandonné, c'est
voilà.
ça? L'abandon,
pourquoi
quoi.
Oui. Ouais. Alors que j'étais tellement bien avec ma mère adoptée, tellement bien, je ne pouvais pas être mieux, franchement.
Ouais, ouais.
Et un jour, il s'est avéré que, je ne sais plus si c'était mon mari pourrait le dire, un coup de fil ou un courrier qui nous disait, ben voilà, votre papa est à l'hôpital, il va falloir s'occuper de lui, on cherche une maison
ton
de retraite.
Ton vrai père?
Mon vrai père.
Ah, et qu'est-ce qu'il en pense? Albert, il dit quoi? Elle était
horrible.
Comment ton épouse à ce moment-là?
C'était pas simple et c'est là que j'ai pris le relais. Parce que je savais que j'ai senti, c'était vers la quarantaine, autour des années 2000, j'ai senti qu'il y avait ce manque, sa mère. Où est ma mère biologique?
D'accord.
Qu'est-ce qu'elle est devenue? Donc j'ai fait des recherches discrètement. Très discrètement.
D'accord.
Je savais la région d'origine. Je suis allé chez les gens. Enfin bref, voilà, j'ai monté.
T'as fait une enquête, quoi.
J'ai fait de l'enquête. Ça a duré, voilà, discrètement. Et pour un moment donné, arriver à quasi savoir où était la mère biologique. Hein. Elle n'était pas loin de chez nous, finalement.
Elle était toujours en Alsace.
Elle était toujours en Alsace, finalement. Ouais. C'était pas très loin, mais c'était voilà.
Eh oui.
C'est une dame qui habitait, en deux mots, c'est une dame qui habitait à Aubernais.
Ah oui.
Et moi, j'avais des bons amis à Aubernais. Il me dit.
Mais non, elle n'a pas d'enfant.
On la connaît.
Mais
c'est une femme qui n'a pas d'enfant.
Ah oui.
Mais non,
wow.
mais c'est non. Ouais. Celle-là, c'est une... Ah bon, d'accord. Et bien finalement...
C'était le choc.
Toi, ça devait être un choc, Monique,
mais, ça a été d'abord pour mon père le choc, parce qu'il a fallu trouver vite une solution pour le payer. Moi, je ne pouvais pas, je n'avais pas financièrement, je ne pouvais pas donner la moitié de ma paye.
C'est quand même gonflé de demander à la fin de leur vie.
C'est fou, hein.
Ouais, c'est quand même incroyable. Ouais. Il t'abandonne et après, il te demande de payer.
Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que mon père est décédé très, très rapidement à l'hôpital et... Voilà, donc on a vite pu arranger la situation, s'est occupé de l'enterrement, on a fait tout ça.
Oui, oui. Mais Monique, on ne va pas revenir sur des souvenirs un peu tristounés, on est là aussi pour passer des bons moments ensemble. Voilà. Parle-moi un petit peu de ta petite entreprise qui ne connaît pas la crise, tu as beaucoup de travail, tu fais plein de choses.
Beaucoup, je ne compte pas les heures.
Tu ne comptes pas les heures.
Je ne compte pas les heures, mais j'y suis tellement bien.
Et alors, toutes ces confitures, donc tu parlais que c'était Joséphine qui t'a appris tout ça, qui t'a transmis. Et aujourd'hui, tu les travailles dans ton laboratoire, tu les vends, vous en vivez tous les deux avec...
Non, on ne peut pas en vivre. Non, on ne peut pas en vivre à deux. Voilà, c'est ça. Oui. Après, j'ai quelques revendeurs. J'ai des gens qui viennent à domicile.
Au marché Gare,
par exemple, nous nous sommes allés vite avant le pain d'épices.
Il y a 10 jours, on a mangé à côté d'eux.
Et on y était encore avant, oui.
Ton mari Albert m'a reconnu de la télé, de ce que je faisais autrefois.
Impressionnant, oui.
Et donc, après, on a discuté, on a mangé l'un à côté de l'autre. Et j'ai dit, mais pourquoi vous ne viendrez pas à la radio? Et là,
tout
vous êtes
fait,
là.
C'est trop gentil, merci beaucoup.
Non, mais moi, quand les gens pétillent comme ça de bonheur et ont envie de parler dans le micro, ça me plaît. Surtout qu'Albert, il est impatient, il a envie de me dire des choses.
Oui, parce qu'il faut savoir qu'Albert parle beaucoup en général, il n'y a que lui qui parle.
Je vais lui mettre un peu de scotch, après je vais lui enlever le scotch. Alors, parle-moi juste un peu avant, avec un petit souvenir, tu as travaillé aussi dans des cuisines, tu as travaillé dans des restaurants, tu étais serveuse.
Très longtemps, oui.
Et c'est un métier qui te plaisait, ça, aller à table, occuper des gens, s'occuper
adoré,
des gens.
Vous savez, je veux dire, avant, on ne faisait pas du 35 heures, c'était du 70 heures, mais ça passait comme une lettre à la poste. Hein. On adorait faire ce métier, on était tout le temps souriant et tout. Et aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit, c'est dommage. Parce que c'est un beau métier, être serveuse, franchement.
Mais pourquoi les gens ne viennent plus dans le service? Il y a beaucoup de gens.
Je ne sais pas.
Il y a des écoles qui les forment à Dumas, là, à côté, à Ilkirch, Alexandre Dumas. Ils sont formés.
Quand on aime les gens, l'humain, on adore ce métier. Franchement, moi, j'adorais.
Mais pourquoi les gens ne viennent plus? Les jeunes qui ont fait des études et qui sont
Et qui font moins d'heures. Hein,
et maintenant,
Et tout est beaucoup plus adapté, je veux dire, pour faire le service, tout. Et moi, c'est bizarre. Je ne sais pas.
Bah, peut-être qu'il y a trop d'horaires quand même, qu'on gagne un peu moins.
Peut-être qu'ils
ne sont pas suffisamment payés, je ne sais pas.
C'est vrai que des fois, quand on va manger à un restaurant, j'ai juste envie de donner un coup de main. C'est plus fort que moi, j'ai envie de...
T'as envie de les pousser, Et tu aimes partir avec ton mari, aller au resto, goûter des bons plats. Et
on n'y va pas tant que ça, mais quand on y va, c'est pour un bon restaurant.
Vous avez Yannick Gutt, là, qui a une étoile Michelin, que je connais bien, qui est un bon copain, parce qu'il a la même passion que moi, la pêche à la mouche, il pêche.
Oui.
Et donc, de temps en temps, il m'appelle, pourquoi tu viens pas? Je dis, écoute, je peux pas, j'ai pas trop le temps, mais c'est quelqu'un de bien, Yannick.
On adore l'hôtel Julia, par exemple.
Ah bah oui,
Gérard, c'est merveilleux aussi.
C'est des gens bien. Et alors, si tu veux, j'ai une petite question un peu saugrenue que je demande de temps en temps aux gens. Si tu étais, par exemple, une fleur, tu serais quelle fleur, Monique?
Oh, j'aime beaucoup les coquelicots.
Ah bon? Pourquoi? Parce que ça fleurit au printemps?
Parce que c'est rouge, parce que
c'est beau.
Et c'est éphémère, c'est quelques jours et terminé.
Quand on les voit dans les champs de blé, là, qui fleurissent avec quelques coquelicots qui sortent comme ça, qui pointent leur nez.
C'est magnifique.
C'est vrai que c'est beau, Et alors, une autre question, si tu étais un arbre, tu serais lequel?
Je pense que je serais un peuplier. Il se redresse tout le temps.
Ah bon? Un peuplier qui penche
et qui se redresse tout le temps.
Moi, je pensais que tu allais dire un chêne.
Ah, chêne, peut-être aussi. Oui, c'est plus dur. C'est plus... Un chêne, c'était ma maman plutôt.
Ah oui, c'est ta maman. Alors moi, j'aime beaucoup le mélèze en ce moment parce qu'en automne, l'automne se termine, on est en décembre. Ils sont encore des fois un peu flamboyants comme ça. Et ils perdent toutes ces aiguilles, tu vois. C'est vrai que c'est beau aussi un mélèze. Et alors, si tu étais une mélodie, tu serais laquelle? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu aimes écouter comme musique? Qu'est-ce que tu fredonnes dans ta tête?
Qu'est-ce que j'aime beaucoup écouter Slimane. J'aime beaucoup les Beatles aussi.
Ah oui.
Ont bercé mon enfance. On écoutait beaucoup Supertramp aussi.
Ah ben comme tout le monde, bien sûr.
Oui, c'était notre génération.
Et si tu étais une confiture, tu serais laquelle? Celle que tu préfères? Ton mari rigole, regarde, il s'amuse là. Regarde, il est en train de rire.
Vous voulez que je vous dise l'églantine?
Ah bon?
Oui. Et tout simplement parce que quand
mais
tu t'es
glandides,
petite,
on appelle ça
travail
comment
monumental. Hein.
C'est un travail de l'œil.
Potemus, gratte cul.
Mais il n'y a pas un autre nom parce
le
que.
Gratte cul.
Et tu sais qui l'a dit ? C'est Julien de Foudé, on en parlait.
Ah, oui, oui.
C'est lui qui m'a dit ça s'appelle un gratte cul.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et ça fait gratter le popotin, ça, quand on le mange.
Je vous explique, quand moi j'étais petite avec maman, on faisait énormément. Il fallait faire de l'églantine. Peu importe qu'on en trouve ou on en trouve pas, il fallait faire de l'églantine. On coupait le fruit en deux, on grattait les pépins dehors, le poil à gratter, ça vous démangeait de partout, on n'avait pas de gants.
Ah ouais.
Il fallait pas se plaindre, il fallait au moins faire un kilo.
Ah
voilà,
ouais, wow.
Parce que c'est bourré de vitamine C.
Et oui, en plus. Et alors, dernière question, si tu étais un souhait, ce serait quoi le souhait le plus cher aujourd'hui pour
de
toi?
De vivre le plus longtemps possible.
Ah, oh, c'est bon, t'as le temps encore, t'es jeune.
Ben, on me dit souvent, continue à travailler comme ça, tu vas voir, tu vas vite mourir.
Oui.
Oh là, vous vous rendez compte?
On va écouter une petite musiquette sur Joséphine, tu vas voir. Ça va te plaire. Vas-y voir Thomas.
Hello, Joséphine. How do you do? Do you remember me, baby? Like I remember you. You used to laugh at me. And all the woo-woo-woo. I used to walk you. I used to hold your hand. You used to use my umbrella. Every time it rained, you used to cry so much. It was a crying shame. You used to live over yonder.
Une belle mélodie sur Joséphine, quelqu'un que tu portes dans ton cœur. Tu la connaissais, cette musique de Fat Domino?
Ouais, je connais, mais je n'arrivais plus à mettre de nom dessus.
De nom dessus, ouais. Donc c'est la mélodie de Joséphine. Il y en a quelques-uns qui en ont chanté Joséphine, comme Bachung, Osé Joséphine.
Oh là là, qu'est-ce qu'on a pu l'entendre à la maison. Ça, c'est mon frère adoptif qui l'a chanté.
C'est vrai
tout
qu'il
le temps
l'a...
pour taquiner ma mère.
Ouais. Ah ouais, ah ouais. Mais c'est beau aussi, Osé Joséphine.
Oui, oui, oui.
Hein. Surtout qu'il a des racines alsaciennes. Hein.
Mais oui.
Il vient aussi du côté de Mulhouse. Ouais. Il a grandi là-bas. Et puis il est né du côté de Brumath, je crois. Lui aussi, il a été adopté, tout ça. C'est aussi quelqu'un. Si, si. Il a été adopté. C'est sa mère l'a laissé un petit peu,
oui.
Voilà, et puis après c'est quelqu'un qui l'a
comme quoi
qui
les l'a gens souvent qui ont vécu ce genre de situation
drame. Alors, j'ai quand même envie de poser une question parce qu'il titille, là, le Albert, ton mari, il a envie de parler, je le sens. Je le sens. Comment c'est de travailler avec ton épouse? Comment c'est? Est-ce que vous êtes tout le temps ensemble, comme deux perruches en fait, qui sont sur le même fil de l'amour, tu vois? Vous vous quittez jamais? Parle-moi un peu de ça.
Il a sa passion aussi. Hein.
Alors, oui, c'est vrai qu'on est tout le temps ensemble, mais dans l'activité, on se partage l'activité. Le labo, c'est son domaine. Et c'est...
J'ai compris que tu ne rentres pas. Hein.
J'y rentre alors.
Quasiment jamais.
J'y rentre tout de même, des fois, pour fermer les couvercles, pour mettre les couvercles sur les pots de confiture, fermer des bouteilles de sirop.
C'est rare,
pas
c'est
toujours,
rare quand même.
Mais c'est rare. Par contre, toutes les fonctions annexes, ça va de la cueillette à la livraison, au marché, à la paperasserie, et tout ça, c'est mon job. De ce fait, on est proches l'un de l'autre, mais on est tout de même chacun dans son domaine.
Dans son domaine.
Et il y en a aucun qui n'est interverti dans l'autre,
ah
donc
oui,
ça se passe bien.
C'est un peu votre succès, ça, tous les
je
deux.
Je pense. Tu vois, la gestion de la cueillette, c'est le moment de la cueillette, elle ne va pas me dire demain matin, tu vas cueillir à 5 heures. Moi, je décide quand je vais cueillir.
Ah oui, mais tu cueilles quoi, par exemple, en été?
Les fruits.
Les framboises.
Tout ce qu'il y a. Alors, tu as de la framboise, de la cerise, de la mirabelle, tu auras de la quetch.
Mais ça, tu le cherches où, dans ton jardin?
Non, notre jardin, c'est le jardin des habitants de la vallée de Villers. Nos fruits, la plupart de nos fruits sont originaires des vergers, des habitants de la vallée, des gens qu'on connaît, avec lesquels on a des relations, qui très souvent ont des trop pleins de fruits. Ils nous appellent, ils disent, écoute, ils appellent Monique pour lui dire, tu m'envoies Albert, il faut qu'il cueille. Deux mots, c'est ça.
D'accord.
Et voilà, ça c'est un de mes jobs.
Et donc ce sont des vrais fruits, quoi. C'est pas.
Ah, c'est des fruits du jardin.
C'est pas que je spritz, c'est
Nick
pas.
Non.
C'est des vrais produits et ça se sent dans vos produits, dans vos sirops, dans.
Voilà. Et tu vois, finalement, on a pas mal de personnes âgées qui nous appellent pour cueillir leurs fruits. Ils peuvent pas supporter qu'il reste un fruit sur un arbre.
Ah ouais.
Ça ne se fait pas ça. Il faut tout. Donc finalement, c'est un bienfait pour tout le monde.
Ouais.
Tu vois. Moi, j'ai quelques endroits, des personnes, elles m'ont dit clairement. Tu t'en occupes, tu vas regarder quand c'est mûr et tu cueilles. Donc c'est bien. Après, l'inconvénient de notre mode de fonctionnement, il y en a un, c'est que vu que c'est nature, selon comment le printemps s'est passé, on peut des fois se retrouver avec une, comment dirais-je, je prends la cerise, une récolte qui est moins abondante parce qu'ils n'ont pas été traités. Donc on a des années bonnes sur un fruit et des années moins bonnes. Et après on fait l'équilibre. Mais la plupart des personnes qui consomment les produits harmoniques savent sa démarche et ils l'acceptent.
C'est beau de regarder ensemble dans la même direction. Hein,
c'est très beau.
C'est très beau, ouais. Alors, je voulais quand même vous parler un petit peu, parce qu'on est au mois de décembre, Noël s'approche. C'est quoi, Monique, quand tu penses à décembre, quand tu penses à Noël, c'est quoi les premiers goûts qui reviennent? Ta Madeleine de Proust,
c'est
quoi?
C'est la clémentine.
La clémentine,
Ouais, je fais une confiture de clémentine, confiture Noël, qui a un gros succès. Et je la fais avec un plaisir fou, parce que ça embaume tellement la clémentine. Et cette année, elle est merveilleuse. Hein.
La clémentine vient d'où alors? De Corse?
De Corse.
Ah bon? Avec les feuillages?
Corse,
avec
ou
les
alors, voilà, ou de Sicile, ça dépend.
Ah oui, ça c'est des bons produits, ouais, effectivement.
On travaille vraiment la qualité, s'il faut qu'il soit bio.
Et Noël, pour toi, c'est ça? C'est pas le cimène, c'est pas la cannelle, c'est...
Ah si, aussi pardon, ça fait partie, la cannelle. D'accord. Ça fait énormément partie, parce qu'on en consommait beaucoup étant petite, hein, quiche à la cannelle, tout ça, c'est... Cannelle, ça, ça va bon, mais oui.
Et toi, Albert, c'est quoi les goûts qui viennent dans ton esprit, ça, quand tu parles de Vinort, de Noël? C'est quoi? C'est les jouets? C'est quoi?
Non, c'est plutôt les agrumes.
Les agrumes?
Oui, c'est plutôt les agrumes. Je reviens aussi sur la clémentine. Quand j'étais gamin, ça, j'ai un souvenir de gamin, mon père travaillait sur Strasbourg, donc ça remonte il y a très longtemps, et on avait souvent en avant-première à la Saint-Nicolas. Il faut savoir que la Saint-Nicolas, c'est
bientôt
notre
là.
Noël.
C'est bientôt,
voilà. Il nous amenait les premières clémentines dans la vallée de Villers. Eh bien, ça, c'était un produit, je veux dire, rare. C'était presque un produit luxe. Et la deuxième chose, c'était les cacahuètes.
Oh là
Cacahuètes, là. Il avait un ami qui travaillait au port de Strasbourg et souvent, il recherchait les cacahuètes là-bas. Il venait avec des cacahuètes et avec une clémentine.
Parlez-moi juste un tout petit peu du soir de Noël, un très peu de mots. C'était comment le soir de Noël chez toi, Monique, de ton enfance? T'étais gâtée?
Une grande tablée, oui, on était tous ensemble. Oh, c'était beau, hein, c'était beau. Ouais.
Et toi, Albert?
Non, la soirée de Noël, pas forcément gâtée avec beaucoup de cadeaux, pas du tout.
T'es peut-être pas gentil, t'avais le rendement
non,
qui cherchait avec les...
Moi aussi, j'ai eu un contexte familial particulier, mais je ne voudrais pas en parler maintenant.
Non, on n'en parle pas, non.
Et j'ai des souvenirs du Père Évêque, tu vois.
On mangeait,
et après, la messe de minuit,
après, la messe.
Tu recevais ton Père Évêque, ton chocolat chaud, mais c'est ça. Ces petites choses-là, ça valait plus que tout le reste. Et on se réjouissait pour attendre ce Père Évêque à la sortie de la messe de minuit.
Ah, c'est génial. Et alors, dis-moi juste, t'as déjà fait ta liste pour Noël, pour le Père Noël, t'as déjà fait?
C'est vrai que j'y ai pas encore pensé, mais ça va être intuitif.
Ça va être quoi? Des chaussettes, un slip et un foulard,
On a failli partir en Australie chez notre fille.
Génial.
Mais bon, là,
en tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël. J'étais très content de vous rencontrer.
Joyeux Noël à vous tous.
Merci beaucoup.
Merci.
Nous, on se reverra très bientôt.
Joyeux Noël à tout le monde.
Joyeux Noël à tous.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away.